Bonjour et bienvenue dans Info Campus, votre émission quotidienne. Je reçois aujourd'hui Monsieur Paul Roselet-Chim. Vous êtes directeur de la filière SEG DFR-SJE. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, bonjour.
J'accueille également Monsieur Sioum Negassi. Vous êtes professeur à Paris Panthéon-Sorbonne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, je vous reçois à l'occasion de la sortie d'une revue académique, une revue orientée économie, gestion, management, mais globalement du développement international. C'est un peu cela, monsieur Paul Roselet-Chim ?
Tout à fait, oui. C'est une revue que nous avons conçue, qui est ouverte sur le monde, une revue internationale, et qui est centrée sur les problèmes de développement. À l'intérieur, bien sûr, les économistes, les juristes, ceux qui font de la gestion, et puis toutes d'autres disciplines transdisciplinaires pourront nous proposer des papiers dès lors que ça traite des questions de développement.
Plusieurs enseignants à l'université participent à ce projet ?
Tout à fait, oui. Plusieurs enseignants ont participé à ce projet. Il faut dire que ce projet va naître à partir d'idées qui étaient déjà développées depuis avant la création de l'Université de Guyane. Et avec la création du laboratoire Minéa, eh bien, cela s'est concrétisé. Et donc, dans le cadre de Minéa, nous avons pu mener à bien ce projet qui nous a donné les résultats aujourd'hui.
Je peux rajouter quelques mots?
Bien sûr, je vous en prie.
Parce que cette revue, finalement, elle est construite par des chercheurs de haut niveau, de niveau international. Donc, toutes les propositions que nous recevons, c'est des papiers, des études en provenance des chercheurs de haut niveau qui sont partout dans le monde, en fait. Il y a une sélection. Tous les papiers ne passent pas, nous sélectionnons. Il y a un comité de sélection aussi qui est international. Vous voyez, donc, c'est une revue très sérieuse qui aborde ce sujet important de l'Amazonie.
Est-ce que l'on peut avoir quelques exemples de profils de chercheurs qui constituent justement cette équipe de sélection ?
Par exemple, nous avons Zach Alab qui vient de Californie et qui est à la Cal State University of San Francisco. Nous avons Belaya Patef qui vient de l'Université d'Algérie. Nous avons Kevin Séraphin, ils ont à peu près le même nom.
Ouais,
mais il s'agit de Séraphin qui est à l'université à Londres et qui regarde des papiers. Parce qu'en fait, comme la revue, c'est une revue franglophone, je dis bien, nous avons des textes qui peuvent être en français et en anglais, cela conduit à ce que les papiers soient lus par des chercheurs qui sont de pays différents.
Le premier numéro est déjà sorti ?
Le premier numéro est sorti dès mai-juin 2021 de cette année et couvre toute la période depuis juin jusqu'à décembre 2021. Par la suite, nous avons un numéro qui sort, on aura deux numéros par an, c'est-à-dire au premier semestre et deuxième semestre. Alors, il faut dire que pour annoncer, en fait, le numéro 2 est déjà bouclé, le numéro 3 est bouclé et là, nous travaillons vraiment pour le numéro 4. Bien sûr, ça nous donne déjà, vous voyez, un peu presque un an et demi, deux ans d'avance sur les numéros qui vont paraître.
C'est une revue physique ou numérique ?
Elle paraît sur une version papier, surtout, chez l'Harmattan.
C'est votre éditeur ?
L'éditeur Harmattan à Paris. Donc, elle est en version dure, papier, pour le moment.
D'accord. Et en Guyane, où peut-on se le procurer ? Le grand public peut-il être intéressé, en tout cas peut-il trouver de quoi des informations qui pourraient en fait l'intéresser dans cette revue ? Des informations utiles ?
Oui, tout à fait. Ils vont pouvoir trouver des informations utiles parce qu'il y a des études de cas qui traitent de la Guyane française.
Sur quel aspect ? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples ?
Le premier papier qui est dans la revue traite de la question des déchets, l'analyse des déchets dans l'ouest de la Guyane. C'est vraiment un article de qualité.
Qui c'est qui l'a écrit ?
Cet article a été écrit par Madame Bourguignon, Madame Guylaine Bourguignon, qui est
que l'on connaît,
et qui a fait ce papier.
À l'université.
Ensuite, il y en a d'autres qui traitent de la Guyane. Par exemple, Monsieur Nestor Adjou a proposé un papier qui traite de questions. Je dirais de fondement théorique sur l'analyse des systèmes et l'analyse du système de production. Nous avons dedans des papiers qui viennent d'Afrique. Un papier qui traite de l'informel à Dakar, qui a été le travail informel à Dakar. Nous en avons qui vient, un papier qui vient de la Caraïbe, qui traite de la question du sport, de l'économie du sport. Et bien sûr du sport et de la démarche de la francophonie. Nous en avons un autre papier qui vient de Polynésie française et qui traite du tourisme, développement du tourisme en Polynésie française dans l'Océanie. Donc voilà un ensemble de panels, de papiers qui permettent d'avoir une vue, je dirais régionale, une vue amazonienne, et en même temps, une vue mondiale. Et c'est ce qui explique que notre éditeur, il a été très enchanté d'avoir à promotionner une telle revue, à avoir à s'occuper d'une telle revue, et on peut le trouver sans problème pour ceux qui veulent passer par le net. Vous allez sur le site de l'édition Larmatan et ils ont cette revue. Localement, nous avons ces revues disponibles au DFR SJE. On peut venir au DFR SJE et on peut l'obtenir. Par ailleurs, nous avons envisagé de mettre à disposition de librairies que nous avons sélectionnées quelques numéros où tout un chacun pourra pouvoir s'en en avoir.
Une revue pluridisciplinaire réalisée par une équipe internationale.
Exact.
Donc vous faites partie, Monsieur Sioum Negassi, puisque vous enseignez à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous êtes de passage en Guyane.
Ça fait 20 ans que je construis la recherche à la Guyane.
Donc vous enseignez à distance ?
Non, physiquement aussi, les deux.
D'accord.
Et maintenant, avec le coronavirus, bien sûr, on partit.
Mais
je fais aller-retour. Donc, je participe en donnant des cours aux étudiants guyanais. Et je fais aussi la recherche avec les thésards guyanais. Vous voyez, je suis à 100% guyanais quand je viens ici. Donc, toute l'année aussi, je reçois des guyanais à Paris pour les aider à construire leur thèse. Vous voyez ? Donc, puis en même temps, je suis chercheur et j'évalue des papiers que nous recevons.
Vous continuez à enseigner au Panthéon Sorbonne ou pas ?
Tout le temps. Je suis en poste à Paris.
D'accord. À distance, là ?
Non, c'est toujours aussi d'aller-retour, savez.
D'accord, très bien. Donc, qui a eu l'idée de cette revue académique ?
Je croisais le groupe. Les deux que vous voyez ici.
D'accord, vous en êtes à l'origine.
Tous les deux.
Pour répondre à quel besoin ? Pourquoi vous avez ressenti l'envie et surtout la nécessité de lancer cette revue académique,
monsieur ? Parce que vous savez, mais je laisserai aussi Paul se prononcer, mais la notion du développement en Amazonie, vous n'en avez pas beaucoup d'études, Donc, je pense qu'il va falloir faire, en plus, bilingue, vous voyez. Et donc, on s'est dit, finalement, pourquoi on ne s'intéresserait pas à l'Amazonie, vous voyez, être spécifique. Mais finalement, on s'est dit, mais finalement, Amazonie et inclure le monde, parce que ça intéresse tout le monde, l'Amazonie, finalement. C'est un objet de curiosité pour les chercheurs.
Oui.
Donc, c'est ça, l'élément fondamental. Donc, on a débuté et maintenant, ça intéresse le monde entier.
Mais le fait, en fait, oui, vas-y. En fait, il y avait, on a constaté depuis de bonnes années que nous travaillons sur des questions de développement dans la région. Il y a un vide en la matière. Il n'y a pas de revue. Il n'y a pas de revue qui puisse combler. Donc, on s'est dit, on va travailler depuis de bonnes années pour essayer de combler ce vide. Donc, cela a conduit à ce qu'on puisse concevoir cette revue. La deuxième, c'est le fait que nous sommes en train d'émerger en matière de... Nous avons émergé en matière d'université et donc nos étudiants arrivant au niveau du Master 2 et du doctorat ont besoin, et c'est une manière déjà de préparer le terrain, ont besoin de support pour pouvoir présenter, publier leurs études. C'est-à-dire, en fait, on a besoin d'une tribune. Une tribune pour parler des questions de développement qui touchent notre ensemble, hein, notre monde de l'Amazonie. Et c'est à nous de pouvoir parler à notre tribune. Donc, en ce sens, on s'est dit, il faut qu'on arrive à créer un support. Et donc, ça va donner... Et puis, la troisième chose, c'est que la création de notre université a changé aussi la donne, a changé les choses. C'est-à-dire, auparavant, on était dans un contexte qui était assez particulier. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est plein. Et compte tenu de ce contexte plein, nous avons besoin d'exprimer notre présence. Et comme cela se fait dans plein d'autres universités, d'avoir une revue qui est en référence avec notre université et le monde. Et donc, ces trois éléments nous ont poussés, avec le concours d'autres collègues en Californie, en Algérie, à Londres, aux Antilles, à Paris 1 et autres, en Polynésie, dans le Pacifique, cela nous a permis d'aller petit à petit, nous sommes arrivés à construire cette revue avec beaucoup de relations.
Donc vous avez mobilisé votre réseau universitaire pour ce projet. J'aimerais revenir sur la rédaction des articles. Vous nous disiez, Monsieur Paul Roselet-Chim, en début d'entretien, que la plupart des articles étaient rédigés en anglais. Est-ce que cela ne va pas poser justement un souci pour atteindre le public francophone dont nous faisons partie et peut-être ne pas toucher totalement le public cible finalement, au final?
En fait, non. Nous sommes plutôt dans une...
On sait que l'anglais, c'est la langue internationale, oui.
Oui, mais nous sommes plutôt dans un modèle un peu canadien. C'est-à-dire, c'est une revue franglophone. C'est-à-dire, dans cette revue, on peut trouver un article en anglais. Pour ce numéro, nous avons quelques expressions anglaises. Par exemple, les résumés sont en français ou en anglais. Nous n'avons pas mis d'article complètement en anglais. La plupart des articles sont francophones, sont en français. Mais il est fort à penser et à venir, par exemple, nous avons reçu des articles qui sont complètement en anglais. Alors, on peut aussi, et ça se fera sans doute avec le comité de rédaction et de diffusion, concevoir de mettre un papier en anglais et en français, parce que les anglophones vont le lire. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux versions du papier.
Juste pour rajouter, c'est que le monde a changé. Hein, et maintenant, l'idée des Canadiens est exceptionnelle. Et chaque revue contient des articles en anglais, des articles en français, sur pratiquement le même thème. Voyez, donc c'est pour ça, les auteurs peuvent être différents. Mais chaque revue aura un thème central. Et ce thème central est traité par plusieurs auteurs, mais en anglais et en français. Donc nous, on était très séduits, d'ailleurs, dès le départ. On avait publié aussi dans des revues canadiennes, et qui sont excellents, parce que vous avez, sur chaque thème choisi, ils mettent des articles de deux en deux langues. Et bien, nos étudiants, maintenant aussi, il faut qu'ils apprennent maintenant à lire n'y a pas que les professionnels, les étudiants aussi doivent savoir maintenant manipuler l'anglais, le français. C'est ce qu'on fait d'ailleurs maintenant dans notre dans nos universités respectives.
Vous êtes répartis sur plusieurs continents, dans plusieurs pays. Expliquez-nous comment vous parvenez à travailler et malgré les distances qui vous séparent, c'est par Internet, j'imagine, les nouvelles méthodes technologiques.
Maintenant, on n'est pas loin. Avec le Zoom à l'américaine,
d'accord, ok.
Mais on est tous, on se parle vraiment du matin au soir. Dès qu'on a un collègue, on lui dit voilà, on envoie un message en disant on se parle et on n'a même plus besoin de se déplacer maintenant.
D'accord, donc vous utilisez les mails, WhatsApp.
Très souvent, on Zoom, par exemple,
okay.
On vit des conférences.
Vos réunions.
Voilà,
de
on fait des réunions, notamment. Des discussions, voilà. Donc, il n'y a pas de souci pour les contacts maintenant.
Nous n'avons pas toujours la chance de recevoir deux économistes dans ce studio. C'est peut-être le moment de faire un focus sur la filière économie et gestion à l'Université de Guyane. Ce sont combien d'étudiants, combien de filières et les perspectives, les opportunités également qui s'offrent aux étudiants guyanais dans ces domaines-là.
Alors,
c'est ton domaine. Tu es tout le temps ici.
Alors, votre question tombe à point. Dans la revue, le premier article qui ouvre la revue, c'est un article qui traite une synthèse en forme de bilan du développement des études de sciences économiques et de gestion à l'université en Guyane depuis l'ancien établissement Université des Antilles et de la Guyane jusqu'à aujourd'hui. On est parti depuis 1999 jusqu'à 2000. Il y a des chiffres. On peut dire globalement, on est content, c'est-à-dire d'un volume d'étudiants des années 1999-2000, autour de 60 étudiants. Aujourd'hui, la filière d'économie en Guyane française, c'est 1034 étudiants répartis en 5 niveaux. Première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, avec des étudiants qui peuvent préparer leur thèse de doctorat chez nous. Ils peuvent préparer leur thèse de doctorat parce que nous avons des liens qui permettent de les encadrer à l'extérieur et aussi une coordination locale. Quand je dis locale, une coordination dans notre département. Donc, voilà l'étendue de la filière. Bon, la filière est organisée avec une licence à deux parcours et un master pour l'instant à trois parcours qui pourrait être modifié suite aux recommandations de l'HCRS, c'est-à-dire le Haut Commissariat à l'enseignement supérieur de la recherche qui nous a fait des propositions et que nous avons tout pris en compte, et aussi les structures de gouvernance de l'établissement, donc qui va être recalibré. Mais vous voyez, d'une façon profonde, nous avons nos étudiants qui préparent la licence AES à deux parcours, le parcours économie pure et le parcours gestion. Et dans le master, nous avons trois parcours. Le parcours banque ingénierie financière pour cette année, le parcours management et financement du développement durable et le parcours comptabilité finance d'entreprise. Bon, ça va être remodelé pour le nouveau contrat de 2022 à 2027. Ça va être remodelé, mais ça tourne autour. Et nous sommes assez contents, assez satisfaits parce que nous avons pu quand même obtenu de bons résultats et puis placer nos étudiants. Je me rappelle, tu vois, ce matin, nous avons un étudiant de chez nous qui est directeur d'agence bancaire à Paris et qui se retrouve dans notre vivier et qui va être un bon relais pour placer nos étudiants en stage dans des entreprises, en banque, et nous pouvons les suivre. Et c'est intéressant. Nous avons obtenu de bons placements comme deux de nos étudiants qui font le parcours à la Banque de France par le biais de l'IEDOM. Nous avons reçu la visite du gouverneur de la Banque de France en 2020 et ça a été un vrai succès pour nous, ce qui nous a permis d'établir une convention de l'université avec l'IEDOM. Vous voyez, c'est un ensemble de résultats, de faits que nous avons, de choses que nous avons pu réaliser en 20 ans et aujourd'hui, cela nous permet d'aller encore plus loin. Et la revue arrive au bon moment, on a pu les faire. Alors c'est vrai que c'est pas si évident parce que nous avons beaucoup d'étudiants, il faut plus de moyens, mais nous essayons d'utiliser les moyens avec les conseils, bien sûr, de la gouvernance de l'université. Nous faisons tout pour les utiliser dans le mieux possible, en les maximisant, comme on fait souvent en économie, mais en les rationalisant de façon efficace. Et pour l'instant, cela peut marcher. Cela marche, voilà.
Monsieur Sioum-Negassi, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, c'est synthétisé. Maintenant, on a un travail à faire de regroupement des filières, parce qu'on était un peu éparpillés. Maintenant, je pense qu'il faut centrer sur l'AES, et puis à l'intérieur de l'AES, on offrira des cours spécifiques, gestion, etc. Donc on va commencer à se centraliser.
Alors souvent, on pense peut-être à tort que l'université propose une formation assez théorique. Maintenant, ce qui m'amène à vous poser la question suivante, est-ce que ces étudiants qui sortent de l'université de Guyane sont prêts à rentrer dans le monde professionnel ou doivent-ils passer par une espèce de SAS ou un complément de formation pour rentrer dans le monde du travail?
Non, mais justement, le changement qu'on va adopter, c'est...
Aujourd'hui, je parle, avant
aujourd'hui,
ce changement.
Aujourd'hui, ils ont quand même des parties théoriques que... petit à petit, on va les remplacer par des cours plus déjà appliqués. Même à l'université, quand on fait des analyses, des statistiques, par exemple, vous voyez, des applications d'économie, etc., qui ne sont pas pure théorie, mais on va leur montrer comment fonctionne la vie active. Et donc, on va faire plus ce qu'on appelle théorique, pas théorique. Donc okay. On va abandonner par petit bout la partie théorique pour les préparer pour la pratique. L'AES, je vous ai dit, on va se concentrer sur l'AES. Fondamentalement, l'AES est plus appliqué que l'économie, qui est plus théorique, mathématique, etc. On n'ira pas là. AES, ça va être des cours appliqués, concrets, vraiment pour montrer aux étudiants ce qui les attend.
Alors, il y a à peu près 1300 étudiants dans la filière.
Vous nous non, 1034.
1034, et vous nous avez parlé de quelques success stories. Vous nous avez donné des exemples de deux ou trois étudiants. Et alors, on pourrait se demander, et le reste, que deviennent-ils?
Alors, nous n'avons pas parlé du reste parce que, bon, vous savez, quand nous venons à votre studio, on n'a pas le temps de donner tous les éléments de détail. Mais pour faire bref, les étudiants qui sortent de chez nous en master à 100% sont placés. Leur cheminement de placement commence dès lors qu'ils sont entrés en stage long de 5 à 6 mois. Et lorsqu'ils terminent leur stage, d'une façon, je dirais, automatique, systématique, il y a la discussion de l'embauche. Et on l'a souvent fait et on continue à le faire. Il y a une proposition. Et donc, c'est un passage, je dirais, stratégique, c'est-à-dire le fait que les étudiants vont en stage, ils apprennent et appliquent des connaissances, par la suite, on peut les voir, donc leur faire une proposition. Et pour l'instant, nous sommes assez satisfaits. Alors, les inquiétudes qui sont, c'est à travers, le potentiel de candidat qui s'oriente vers nous, comment pouvoir gérer et encore faire, plus de sélection, plus de sélectivité. Mais ça, c'est une question que, je pense, avec toute l'équipe, on pourra les voir, parce qu'il ne s'agit pas pour nous de dire qu'on va venir avec un objectif de sélection et que d'autres se trouvent un peu exclus. Ce n'est pas la conception de l'ARS, ça n'a jamais été la conception de la filière.
Aujourd'hui, vous acceptez tout le monde. À partir du moment où on a son bac, on peut accéder à ces filières?
Non, en première année, on ne peut pas ne pas accepter un candidat à partir du moment que nous avons, le quota est fixé, n'est pas rempli. Donc
mais est-ce que cela, ne mécaniquement, ne fait pas baisser le niveau niveau scolaire niveau,
Non, mais ça c'est, c'est la règle officielle. Quand les étudiants sortent de terminale et ils s'intéressent à nous, il y a un certain nombre d'éléments de codification pour les classer. Et une fois qu'ils sont classés, il faut les étudiants viennent. Bien sûr, ça c'est pour la première année. Après la première année, il y a des étudiants qui vont, des candidats qui vont réussir leur année et d'autres qui n'auront pas l'année, mais qui reviendront l'année d'après.
D'accord, ils peuvent redoubler
Ils vont redoubler.
Il y en a aussi beaucoup qui abandonnent. Selon les statistiques, surtout en première année.
Oui, il y en a qui vont abandonner, mais il y en a qui vont revenir, qui tiennent encore, et ainsi de suite, à deuxième, troisième, quatrième année.
Parfait.
En Master 1, je profite pour dire, en Master 1, nous n'avons pas effectué de sélection pour nos étudiants locaux. Vous voyez, quand les étudiants sortent de licence, ils sont de l'université, on ne va pas les mettre dehors. On ne va pas faire de sélection pour eux. Par contre, pour tous les candidats qui sont de l'étranger, qui sont extérieurs, nous faisons une sélection. Nous faisons une sélection systématique. Et quand on arrive en Master 2, ça va être la règle capitale. Nous faisons une sélection pour le Master 2, pareil.
Très bien. Voilà. Merci, Monsieur Paul Roselet-Chim.
Je vous remercie beaucoup.
Directeur de la filière SEG DFR-SJE et Monsieur Sioum Negassi, vous êtes professeur de Paris 1, par Panthéon-Sorbonne. Je vous recevais pour évoquer la sortie d'une revue d'économie, management et de droit, développement international, qui s'appelle comment cette revue?
Alors, cette revue, ça s'intitule l'AJDMS. AJDMS, très simple, A-J, le J et le I, on prononce J, D, MS, Development Management Studies. Bon, ça, c'est l'approche à l'anglaise, vous comprenez.
Et vous avez...
Et l'approche à la francophone, c'est la revue amazonienne d'études du développement international et du management.
D'accord.
On va faire une présentation très sobre, très simple, jeudi 16 décembre dès 9h à 11h à l'amphithéâtre, le grand amphi de l'université. On va faire une présentation. Il y aura des exemplaires. Tout un chacun pourra, bien sûr, l'acheter, puisque on le vend, et ils vont l'acheter, se munir de cash ou de liquide. Et puis d'autres pourront le commander chez l'éditeur, sur le site de l'éditeur directement.
Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation de cette revue qui est centrée sur l'Amazonie et qui s'ouvre sur le monde. Dans un instant, le retour de l'actualité sur Radio Mayuri Campus. Cette émission est à retrouver en FM, bien évidemment, sur 107.6 sur Cayenne, 89.2 sur Saint-Laurent-du-Maroni, et en vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci, à bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.